Laissez-moi juste le temps de reprendre mon souffle, parce que j'arrête pas de danser en fait pendant l'émission d'Enrique. C'est pas sympa, Enrique. Je sais pas. Il faudrait que tu fasses une chanson, enfin une émission calme et douce où t'as pas des chanteurs magnifiques. Fais-toi enfin, des choses un peu plus reposantes. Parce que pour enchaîner par la suite, c'est quand même assez compliqué. Surtout que l'actualité scientifique cette semaine, elle nous a gâtés. Alors pas nécessairement sur des choses, on va dire, réjouissantes. Mais on va quand même, pendant cette émission, pendant une heure sur l'antenne de Graphite, traiter de l'actualité scientifique. C'est Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h. Je m'appelle Jean-Noël, je suis essoufflé. Mais on va écouter pendant une heure ensemble, un peu de musique bien évidemment. Et puis traiter de l'ensemble de l'actualité scientifique. Alors des choses pas réjouissantes, parce qu'on va parler de Tchernobyl. On va parler du décès de Nathalie Baye, parce que Nathalie Baye est décédée d'une maladie assez particulière, mais en fait qui est assez répandue et dont on ne parle pas. Donc on fera un petit peu un point là-dessus. Et puis on va parler quand même de ces astronautes qui sont partis, qui ont fait un petit tour au niveau de la Lune et qui sont revenus. On n'a pas eu le temps d'échanger là-dessus et on fera un petit point là-dessus cette semaine. Et puis on parlera des 50 ans d'Apple. C'est les 50 ans de cette firme américaine. Et voilà, c'était intéressant aussi au niveau de l'histoire des sciences et des techniques, de s'intéresser à Apple. Et puis voilà, on parlera de plein d'autres sujets. C'est le sommaire que je vous propose aujourd'hui dans l'émission Biotine. C'est parti.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Oui, en général, oui, parce que j'ai pas appuyé sur le bon bouton. En général, le générique est plus long, ce qui me permet, toi, de préparer mes feuilles, mais c'est pas ça. Alors, je vais recommencer, je vais vous mettre le générique le plus long. Normalement, c'est celui-ci, toi. J'ai le temps de prendre des feuilles, toi. Tout est, c'est de l'improvisation totale. Mais ça, mais c'est du métier, Enrique, tu sais très bien. Tu es habitué, quand même, pour tous les samedis matins dans ce studio, pour, voilà, être l'aspect direct est toujours intéressant, bien évidemment. Alors, nous sommes le 25 avril. Journée mondiale du paludisme, ouais, c'est encore des choses très réjouissantes. Et c'est la journée de l'ADN, parce qu'on a découvert l'ADN, c'était en 1953. C'était en fait précisément une publication dans une revue scientifique assez importante, la revue Nature, en 1953, que cet article a présenté la découverte de la structure de l'ADN. On savait à partir de 1953 à quoi ressemblait l'ADN, et c'est grâce à Francis Crick et James Watson. Donc Crick et Watson ont été quand même deux scientifiques importants au niveau de la génétique. C'était en 1953, vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir l'éphéméride pour avoir un peu l'idée de contextualiser un petit peu toutes ces recherches. Si on retourne un petit peu plus dans le temps au niveau de l'éphéméride du 25 avril, en 1859, c'est le début du percement du canal de Suez en Égypte. C'est pas le détroit d'Ormuz, c'est le canal de Suez. C'était en 1859 quand même, quand on a commencé à creuser ce canal. 1935, la première communication téléphonique autour du monde. 1935, ça va bientôt faire 100 ans, c'est aussi des éléments où on n'a pas nécessairement beaucoup de connaissances historiques sur cet aspect-là. Et puis, autre ouverture, c'est l'ouverture complète du boulevard périphérique de Paris. C'était le 25 avril 1973, il y a quand même 53 ans que ce boulevard périphérique, dans son intégralité, a été ouvert aux Parisiens et enfin tous ceux, aux automobilistes, on va dire. Ça a mis quand même 16 ans de travaux pour construire ce périphérique. C'est quand même assez important. Il a commencé en 1957 et donc ouverture le 25 avril 1973. Il est né un 25 avril 1874. C'est Guglielmo, peut-être, alors je ne suis pas du tout italien, donc je ne sais pas comment on prononce précisément ce prénom, j'en suis désolé. En tout cas, c'est le prénom de Marconi. Marconi, ça nous dit quelque chose, c'est un physicien, c'est un inventeur, c'est un homme d'affaires aussi italien. Il est considéré, Marconi, comme l'un des inventeurs de la radio et de la télégraphie sans fil, c'est dire qu'ici à Graphite, on vénère Marconi. Et en fait, Marconi, avec Ferdinand Braun, est coloréat du prix Nobel de physique en 1909, notamment en reconnaissance de ses contributions au développement de la télégraphie sans fil. Marconi, c'est le fondateur de la première compagnie internationale de radiodiffusion. Et en fait, la Cour suprême des États-Unis va décider en 1943, après la mort de Marconi, qu'un des brevets qui lui avait permis d'obtenir le prix Nobel, eh bien, l'un des brevets était invalidé par un brevet qui était antérieur et qui était un brevet vrai de Nikola Tesla. Donc effectivement, Tesla, Marconi, grande guerre par la suite. Mais voilà, à l'occasion donc de ce 25 avril, on peut quand même saluer la mémoire de Guglielmo Marconi. Décès le 25 avril 1840, donc on est toujours au 19e siècle, de Siméon Denis Poisson, qui est un mathématicien, un géomètre et un physicien français. En fait, sa contribution la plus essentielle, elle concerne l'électricité, le magnétisme, et il va contribuer à pouvoir apporter pas mal de connaissances dans ces domaines-là. Mais il a également une influence en astronomie, notamment sur l'attraction des planètes. Siméon Denis Poisson, il fut d'abord envoyé chez son oncle, qui était un chirurgien à Fontainebleau. Et il va commencer à prendre des leçons sur les saignements, notamment sur les enflures, sur les traumatismes, les cicatrices. Mais en fait, il ne fait pas nécessairement beaucoup de progrès dans ce domaine-là. Et il a montré plutôt des signes de talent précoce comme mathématicien. Et donc, on va l'envoyer à l'école centrale de Fontainebleau. Et il a la chance, en fait, d'avoir un enseignant aimable et sympathique qui s'appelle Monsieur Billy, qui, quand il va s'apercevoir rapidement que son élève est quand même assez bon en mathématiques, au point même que l'élève va commencer à dépasser le maître, eh bien, cet enseignant va se dévouer pour lui apprendre les branches les plus difficiles. Il va le suivre, il va l'encourager, il va prédire sa célébrité en utilisant notamment un vers de Jean Lafontaine, « Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie ». Et donc Siméon Denis Poisson entre à l'école polytechnique à la fin du XVIIIe siècle. Puis immédiatement, il va attirer l'attention quand même des professeurs qui va un petit peu le laisser suivre les cours comme il le souhaitait. Poisson est un nom important pour les mathématiciens. Il y a des lois de Poisson qui sont des lois mathématiques que je ne vais absolument pas décrire ici parce que je n'ai déjà pas assez de niveau de connaissance et c'est quand même assez complexe parce que c'est assez abstrait. Mais voilà, Poisson qui peut-être pas un nom courant, passé à la postérité, quand même un nom important dans le domaine mathématique. Il était important donc de mentionner le nom de Siméon Denis Poisson, décédé donc un 25 avril 1840 à Sceaux. Voilà pour cette éphéméride. Alors, on va parler un petit peu, parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger ensemble, sur cette mission Artemis 2. Hein, je vous ai dit depuis plusieurs années que cette décennie 2020 va être une décennie totalement fantastique au niveau du spatial et ça s'est confirmé avec cette mission Artemis 2. Donc on en sait un petit peu plus sur ce qu'il s'est passé, on les a interviewés, ces astronautes, et donc cet article de Futura Science mentionne un petit peu quelques éléments d'interview que l'on a de ces astronautes, notamment au cours d'une conférence de presse qu'ils ont donnée. Alors par exemple, il y a Red Wiseman qui explique « Je ne sais pas quoi dire, il y a à peine 24 heures, la Terre n'était pas plus grande que ça à travers le hublot ». Oui, parce que c'était quelques heures avant son amérissage dans le Pacifique, Red Wiseman, qui est le commandant de la mission Artemis 2. Il prend pour la première fois la parole en public et c'est ça qu'il exprime. C'est cette vision de la Terre à travers un hublot. Effectivement, ça doit être quand même assez particulier. L'émotion en fait, des quatre astronautes, elle était vraiment palpable au moment de cette conférence de presse, parce qu'il y a les yeux qui brillent, il y a des voix qui vacillent un petit peu. Puis l'Assemblée retient son souffle pour écouter ces nouveaux héros de l'ère spatiale, comme si ces premières paroles pourraient un petit peu nous replonger encore un peu dans cette magie d'un rêve qui est désormais maintenant terminé. Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen et Red Wiseman, eh bien nous sommes liés pour toujours, c'est ce qu'explique Red Wiseman en citant ses trois coéquipiers. Personne ici ne peut comprendre ce que nous avons vécu. Cela a été l'un des moments les plus exceptionnels de toute ma vie, dit-il. Alors, à l'attitude du commandant, on comprend que le retour sur Terre et le retour à la réalité ne va pas être facile, même si bien sûr, il y a le bonheur indicible de retrouver la famille et les plus proches, bien évidemment. « J'ai peur de parler », c'est ce qu'explique Victor Glover. « Je n'ai pas encore analysé ce que nous avons accompli et j'ai peur de commencer à essayer », dit-il. Au-delà de la mission en elle-même et puis donc de ce formidable voyage qui a battu le record de distance d'un équipage humain par rapport à la Terre, ce sont eux qui sont allés le plus loin. On n'avait jamais été aussi loin de la Terre avant. Eh bien, l'accent est donc mis sur l'expérience humaine. Et il faut le dire, c'est quand même un équipage assez intéressant. Depuis le début, on sent en effet que ces quatre-là ont quelque chose de spécial. Les regards sont complices, les étreintes sont authentiques, elles sont pleines d'émotions. C'était une véritable équipe et c'était important dans ce genre de conditions. de bien s'entendre, bien évidemment. Et ça a duré 10 jours, cette mission, et ces 4 astronautes auront, comme aucun équipage avant eux, réussi à nous faire à la fois sourire, rêver et aussi un petit peu émouvoir. Qu'est-ce qui fait un équipage? C'est ce qu'explique Christina Koch. Après ces 10 jours, j'ai une réponse. Un équipage, c'est un groupe qui reste uni en permanence, quoi qu'il arrive, qui avance ensemble à chaque instant avec le même objectif, qui est prêt à se sacrifier silencieusement les uns pour les autres. Un équipage partage les mêmes préoccupations et les mêmes besoins et est inévitablement, magnifiquement et loyalement lié, dit-elle. Et puis elle continue. Elle dit « Alors quand nous avons vu cette minuscule Terre, les gens nous ont demandé quelles étaient nos impressions et honnêtement, ce qui m'a marqué, ce n'est pas nécessairement la Terre, c'était toute cette noirceur autour. La Terre était comme un canot de sauvetage flottant paisiblement dans l'univers. » L'image est quand même assez magnifique. Elle conclut dans un appel vibrant à l'unité, elle dit « Planète Terre, vous êtes un équipage. » Alors ensuite, il y a Jeremy Hansen qui parle. « Ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi loin de Red, dit-il, en regardant le commandant de la mission assis à quelques mètres de lui. » Il faut rappeler en effet que les astronautes, ils ont vécu pendant 10 jours dans une espèce de grande promiscuité parce qu'ils étaient dans un espace d'à peine 9 mètres cubes. 9 mètres cubes, c'est pas grand. Effectivement, pendant 10 jours, t'as intérêt à bien t'entendre. Effectivement. Il dit « Nous avons beaucoup parlé de science et des choses que nous avons apprises. Cela parce qu'elles sont incroyables et c'est finalement l'expérience humaine qui est extraordinaire pour nous. » Et donc, Jeremy Hansen rappelle que la dimension profondément humaine de cette mission est importante. Il dit « Je vous dirais que lorsque vous nous regardez ici, vous ne nous regardez pas vraiment. Nous sommes un miroir qui vous reflète. Et si ce que vous voyez vous plaît, regardez un peu plus loin, c'est vous. » C'est ce qu'il dit. Ils sont assez intéressants quand même, leurs interviews. Il y a aussi une référence un petit peu à la diversité de cet équipage qui a, pour la première fois, emporté une femme, un Afro-Américain, un non-Américain au-delà de la Lune. Effectivement, c'était quand même une diversité qui était bienvenue dans ce contexte. Finalement, Artemis 2 aurait été bien plus qu'une énième mission spatiale ou un simple... remake de Artemis 1 en version habitée. Non, parce que entre Artemis 1 et Artemis 2, il y a quand même une, si on fait une comparaison entre ces deux vols, eh bien, une mission habitée, bien sûr, ça n'a pas le même impact qu'une mission robotisée, qui était le cas d'Artemis 1, parce qu'au-delà des objectifs purement scientifiques, il y a, bien sûr, cette dimension humaine qui est importante et une dimension émotionnelle aussi qui était remplaçable. Et c'est ça qui est important dans ce contexte-là. L'idée, c'est d'envoyer des humains en dehors de la Terre. Donc, il y a un moment, bien sûr, il y a toute la technologie, il y a toute la science qui va pouvoir apporter les solutions techniques. Après, il y a le côté humain qui est bien sûr aussi au centre de l'expérience. Et c'est ça qui était assez intéressant dans cette mission de Artemis 2. Donc, Artemis 2 apparaît comme une parenthèse un peu rare, une véritable bouffée d'oxygène, d'optimisme et d'espoir. Et donc, il était intéressant dans cette émission de revenir sur le... Pardon, ça faisait un petit bruit spécial dans le studio, je me demandais ce qui se passait, c'est rien. Donc voilà, c'était intéressant de revenir sur cette mission Artemis 2. Alors, on pose aussi d'autres questions et on a parfois quelques articles qui abordent cette mission Artemis 2 sous un autre angle. Ce qui est intéressant, c'est de se dire mais pourquoi on a envoyé sur à l'occasion de cette mission Artemis 2, on a utilisé un appareil photo qui est un réflexe numérique Nikon qui était sorti en 2016. Pourquoi dans cette mission en 2026, on a utilisé un appareil photo vieux de 10 ans, quand même se poser la question. La réponse, elle tient en partie à la réglementation en fait, parce que les appareils, ils doivent passer un processus de validation de la NASA, ce qui limite le choix. Et l'agence spatiale utilise la marque japonaise depuis de nombreuses années. En fait, ce n'est pas la raison principale. Ce n'est pas une question de budget, hein, parce qu'ils ont emporté le Nikon Z9. Hein, c'est une version beaucoup plus récente, parce que ça permet d'avoir une définition beaucoup plus élevée. Mais ils ont quand même emporté cet appareil réflexe numérique sorti en 2016. Ils ont même emporté des iPhones, hein, des iPhone 17. L'explication, elle est tout simplement du fait qu'il s'agit de l'appareil le plus sensible parmi ceux qui sont validés. Ce Nikon D5, il peut atteindre un ISO de 3 280 000. Alors pour ceux qui sont photographes connaissent très bien ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas photographe, je n'y connais rien. Il faut justement savoir que c'est un record. Ça signifie qu'il est de loin le plus sensible à la lumière et il offre les meilleures photos en basse lumière. C'est ça qui est important. Ce chiffre est avant tout du marketing. Et c'était quand même assez intéressant de voir que ils étaient obligés de prendre des photos dans des contextes assez particuliers, des environnements assez particuliers, bien évidemment. Donc, il faut un appareil photo qui puisse répondre à cette problématique. Et ce n'est pas nécessairement les appareils photo les plus récents qui répondaient à cette contrainte. Et donc, ils ont pris, hein, on a vu des photos quand même assez magnifiques de la Terre, de la Lune. Hein. La NASA a aussi opté pour un objectif particulier qui avait une trentaine d'années. Ça... donc, on était quand même sur un modèle assez ancien, mais qui avait fait ses preuves. Alors, on nous dit que ça sera quand même sans doute la dernière mission de ce Nikon D5. Lors de la mission Artemis 3, les astronautes seront équipés d'un nouvel appareil qui s'appelle Hulk pour Handheld Universal Lunar Camera. C'est un appareil photo qui va être spécialement conçu pour l'utilisation sur la Lune et basé sur quand même des technologies plus récentes. Mais c'était assez quand même cocasse, on va dire, d'avoir fait cette mission assez extraordinaire, d'avoir envoyé une équipe de 4 astronautes le plus loin possible, hein, on n'avait jamais été aussi loin, et puis on embarque un appareil photo qui a 10 ans d'âge. Eh bien, tout s'explique, c'était celui qui permettait justement d'avoir les meilleures photos dans certains contextes assez particuliers. Je vous parlais d'Artemis 2, et déjà, on regarde l'avenir, et on parle déjà d'Artemis 3. En fait, c'est Jared Isaacman qui a surpris tout le monde dès la fin du mois de février. C'est-à-dire que Artemis 2 n'était même pas encore lancé. On se rappelle qu'au début, il y avait un petit peu du retard, il y avait des reculs qui avaient été prononcés, que déjà l'administrateur de la NASA, donc Jared Isaacman, annonçait que la suite du programme Artemis allait être complètement modifiée. Auparavant, la mission Artemis 3, elle aurait dû être en 2028. 2028, c'est demain. Ça devait être la mission au cours de laquelle les astronautes américains allaient poser le pied sur la Lune, enfin pour la première fois depuis plus de 50 ans. La dernière fois, c'était en 1972. Et finalement, non. On va pas faire ça. Ça sera Artemis 4 qui le fera, tandis que Artemis 3 ne sera qu'une mission intermédiaire de préparation. Et présenté ainsi, tout cela a l'air de ressembler à une espèce de retour en arrière dans lequel la troisième mission du programme lunaire américain représenterait un jalon technique facile à passer pour s'assurer de la pérennité de la suite à venir. Pourtant, tout n'est pas si simple. La mission Artemis 3 n'ira effectivement pas bien loin. Elle se déroulera en orbite terrestre, soit quelques centaines de kilomètres d'altitude. C'est justement assez particulier et assez étonnant. Là-haut, eh bien, la fusée SLS devrait mettre en orbite à nouveau ce vaisseau Orion avec probablement 4 astronautes à bord. Puis le vaisseau pratiquera un rendez-vous orbital avec un atterrisseur lunaire. 2 ont déjà été sélectionnés. Il y en a un de Blue Origin et un de SpaceX. SpaceX, Elon Musk, donc il y a quand même aussi derrière les entreprises privées qui sont de la partie. Et puis, on se pose quelques questions sur cette mission Artemis 3, parce que finalement, elle semblerait apparemment moins ambitieuse de ce qui avait été prévu. Donc on suivra bien sûr cela, 2028, ça va être assez rapide effectivement, pour cette mission Artemis 3. Avant de faire une petite pause musicale, je voulais juste qu'on revienne sur cet astronaute qui était revenu un petit peu en catastrophe, en urgence, on s'en souvient, on en avait parlé, c'était en janvier dernier, les 4 astronautes de la mission Crew 11 qui étaient à bord de la Station Spatiale Internationale, ils avaient dû être précipitamment rapatriés parce que l'un d'eux présentait un problème de santé. Donc à l'époque, on ne savait pas qui c'était, on ne savait pas la raison médicale. Ce n'est que fin février, on avait parlé dans cette émission, qu'un communiqué écrit par Mike Fink lui-même révélait finalement que c'était lui qui était la cause de ce rapatriement. Et puis, il a donné ensuite quelques détails, même si à l'époque, il y avait encore un flou qui entourait encore les causes médicales. Eh bien, il y a quelques jours, l'astronaute a tout de même décidé de franchir le pas en racontant exactement ce qui lui était arrivé. C'était assez étonnant. Il était attablé Bon, ils sont dans un système de microgravité, donc on n'est pas attablé comme nous on l'entend, mais enfin, en tout cas, il était avec ses coéquipiers pour partager un repas à bord de la station spatiale internationale, et McFink aurait brutalement perdu l'usage de la parole. L'incident aurait duré une vingtaine de minutes. Pendant tout ce temps, cet astronaute américain de 59 ans a été entouré par ses camarades qui ont décidé de lui faire passer une échographie, et cette échographie n'a rien révélé d'anormal. Et donc, face à cette situation totalement inédite de quelqu'un qui perd la parole dans cette station spatiale internationale, et bien que ensuite McFink, il a retrouvé plus tard l'usage de la parole, en fait il a retrouvé la parole d'une façon soudaine, aussi soudaine que quand il l'a perdue en fait, donc il n'y a pas eu d'explication concrète. La NASA aurait alors décidé de rapatrier au plus vite l'ensemble de l'équipage. Ce phénomène qu'on appelle donc l'aphasie, la perte de parole, elle peut être en effet associé à un AVC ou aussi à une crise cardiaque. En tout cas, c'est pas quelque chose d'anodin. Et, mais bon, il y a eu des examens qui ont été réalisés après son retour sur Terre. Il n'y a rien de décelé au niveau de ce côté-là. La bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup de données rassurantes montrant qu'il n'y avait rien de grave. C'est ce qu'a expliqué McFink lors d'une interview à NBC News. Je n'ai pas eu d'AVC, pas de crise cardiaque, on est presque sûr à 100% que c'est lié au séjour dans l'espace. Ok, mais enfin, ça reste quand même assez intriguant. Alors, il faut préciser que McFink totalise à son actif 458 jours de vol cumulés dans la station spatiale internationale. Il est resté un an et demi de façon cumulée dans l'espace, quand même pas anodin non plus. Et ce que l'on sait, on sait que la microgravité a des effets non négligeables sur les organismes. De la perte musculaire, on en a déjà parlé, l'ostéoporose, des problèmes de vue irréversibles, des doses plus élevées de radiation. On est cependant encore loin de connaître tous les effets de cet environnement, notamment sur le cerveau, qui est un organe, bien sûr, complexe, sensible. Et donc les médecins sont encore en train de s'arracher les cheveux, hein, c'est ce qu'explique donc cet astronaute Mike Fink. Mais bon, voilà, on n'en sait pas plus. Enfin, on sait ce qui lui est arrivé, mais on ne connaît pas la raison de cela. La NASA n'arrive toujours pas à expliquer cette perte de parole dans la station spatiale internationale. On suivra bien sûr tout cela si la NASA communique bien évidemment dans les prochains jours ou prochaines semaines. On fait une petite pause musicale et on continuera à traiter de l'actualité scientifique. On va parler des 40 ans de la catastrophe de Tchernobyl, là, tout de suite sur l'antenne de Graphite. Pardon, je vais recommencer parce que je suis vraiment pas bon aujourd'hui sur les boutons, je suis désolé. C'est parti, on écoute Mélanie de Biasio sur Graphite. What's that look upon your face? It seems you've got a lot to say. But no words come. The flow seems to be gone. Let's sing the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How? Dance the way through it. How about a new way to pray? How about a new way to pray? How about a new way? How about a new way to pray? The Flow, c'était Mélanie de Blasio, de Biasio, pas Biasio, je vais y arriver, pardon. Mélanie de Biasio sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Oh là, je sens que c'est pas ma journée, hein. Je suis désolé. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 sur la bande FM et puis sur internet, hein, graphite.net bien évidemment. C'est Biotine tous les samedis entre 12h et 13h, la rediffusion le mardi matin à 10h. Nous parlons de l'actualité scientifique et cette nuit entre donc samedi 25 et dimanche 26 avril, eh bien nous célébrerons, enfin célébrerons c'est peut-être pas nécessairement le mot, en tout cas nous aurons une pensée pour les 40 ans de cette catastrophe de Tchernobyl. C'était il y a 40 ans déjà. Et il y a pas mal de choses, hein, qui existent. J'ai vu qu'il y avait un documentaire, je crois, sur France 2 la semaine prochaine. Donc je vous incite vraisemblablement à regarder. Il y avait une série qui s'appelait Tchernobyl, d'ailleurs, qui était vraiment intéressante. Alors bien sûr, on parlait des personnages qui avaient eu, comment dire, où l'impact était direct sur eux. Et ce qui était intéressant dans cette série de Tchernobyl, c'était l'explication scientifique de ce qu'il s'est passé et la démonstration finale dans le dernier épisode, je crois, est quand même totalement surréaliste. Enfin, voilà, c'est une très très belle série et je pense que les documentaires qui vont être diffusés dans la semaine seront aussi du même niveau. Ça permet, voilà, de comprendre un petit peu ce qu'il s'est passé il y a 40 ans. Il y a un article de Futura Science qui parle de Tchernobyl, notamment par l'angle des dossier secret de la Stasi. La Stasi, c'est la police secrète qui a officié en Allemagne de l'Est pendant 40 ans. Hein. C'est vrai que cette notion d'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest, tout ça, on avait un peu oublié ça, mais ce sont des choses qui existaient à l'époque. Et donc la Stasi était cette police secrète et les archives de la Stasi renferment des dossiers sur des millions de personnes et des informations précieuses et aussi inattendues sur l'accident nucléaire de Tchernobyl. Donc, dans le 26 avril 1986, je crois que c'est environ une heure et demie du matin, il y a une procédure de routine qui tourne mal et le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire soviétique explose. Ça libère une quantité de matière radioactive des centaines de fois supérieure à celle de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Donc, on devine quand même l'ampleur de la catastrophe. Alors, quel est le lien avec la Stasi ? Eh bien, des communications autrefois classées top secret entre les services de renseignement est-allemands et le KGB, parmi les rares sources accessibles aujourd'hui qui permettent d'y voir un peu plus clair sur ce qu'il s'est réellement passé à Tchernobyl. Et ce que révèlent ces documents, ce n'est pas seulement l'ampleur de la catastrophe nucléaire, c'est une mécanique de désinformation à grande échelle. Les archives de la Stasi sont glaçantes. Niveau de radiation, le bétail qui est contaminé, les récoltes qui sont endommagées, les hospitalisations, les victimes, les chiffres dont disposaient les plus hauts responsables de l'Allemagne de l'Est et de l'Union soviétique sont sans équivoque. L'explosion a été dévastatrice. Mais à cette époque, tout ce qui compte, c'est bien sûr de préserver l'image du régime. Alors, le mensonge s'organise. Tout est sous contrôle. C'est ce que martèlent les autorités. Les documents classifiés racontent une autre histoire. Lors d'une réunion du Politburo, Gorbatchev, qui était à l'époque le dirigeant de l'Union soviétique, il déclare « Lorsque nous informerons le public, nous devrions dire que la centrale était en rénovation à ce moment-là afin de ne pas ternir l'image de nos réacteurs. » Et donc dans les rapports de la Stasi, on retrouve aussi des consignes claires. L'idée de rassurer à tout prix, d'affirmer partout dans le bloc de l'Est qu'il n'y a absolument aucun danger. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas ? Eh bien, c'est toute la question, parce que la population, elle capte aussi des informations qui viennent de l'Ouest. Et donc, cette population, elle doute, à moins que ces informations ne soient qu'une tentative de dénigrement de l'Union soviétique. Eh bien, la propagande, elle atteint son objectif. L'idée, c'est de semer la confusion. L'autre préoccupation, elle est économique, bien évidemment. En Allemagne de l'Est, la population, avant de l'existence de retombées radioactives sur une grande partie de l'Europe, elle devient méfiante, notamment envers la production agricole locale. Et donc la consommation de fruits, de légumes et de lait, ça chute. Que faire alors des excédents? Eh bien, les exporter, bien évidemment. Dans les documents classifiés, des responsables de la Stasi avancent que cela permettrait de diluer le risque et donc de limiter les expositions dangereuses. Mais la méfiance, elle gagne aussi l'Allemagne de l'Ouest. Très vite, les autorités empêchent les véhicules trop contaminés de franchir la frontière. Donc les dirigeants viennent peut-être de commettre l'erreur de trop. En 1950, la plupart des employés de la toute nouvelle Stasi avaient été marqués par les horreurs du nazisme. Ils pensaient sincèrement contribuer à bâtir une espèce de société un petit peu plus juste. Mais dans les années 1980, eh bien, la confiance elle s'érode. Lorsqu'en 1990, quelques mois après la chute du mur de Berlin, des manifestants prennent d'assaut le siège de la police secrète, ils rencontrent en fait peu de résistance. Il faut dire que la gestion de l'après-Tchernobyl a laissé des traces, qui est un exemple parmi d'autres de la rupture entre l'État et ceux qui le servaient. Et donc, en Allemagne de l'Est, la désinformation autour de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl renforce une idée qui plane, celle d'un État prêt à tout pour préserver son image, y compris à sacrifier la santé de sa population. Et donc, la Stasi avait un peu basculé, entre guillemets, et au moment de la chute du mur de Berlin, eh bien, il n'y a pas eu une résistance frontale et peut-être aussi que ça a contribué, enfin, c'est un des éléments qui a contribué à cette chute du mur de Berlin. Donc voilà, il y a des choses qui se révèlent, bien évidemment. On sait très bien que le nuage radioactif ne s'est pas arrêté à la frontière de la France, bien évidemment. Enfin, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à l'époque, et donc je vous incite à regarder ces documentaires qui vont être diffusés dans la semaine et qui reviennent donc sur les 40 ans de cette catastrophe. Autre chose, alors c'est pas du tout des choses bien réjouissantes que je vous propose cette semaine, il faut dire que l'actualité n'était pas nécessairement réjouissante, donc les sujets qu'on traite sont sur des sujets un peu dramatiques, et il y a aussi un autre article de Futuration, ce que je trouvais intéressant, qui revenait sur la maladie à corps de Lévy. En fait, cette maladie, on a découvert ou redécouvert son nom il y a une semaine, lorsqu'on nous a annoncé le décès de la comédienne Nathalie Baye. Elle avait 77 ans et on nous a dit qu'elle avait été emportée par la maladie à corps de Lévy. Quelle est cette maladie? Et c'est cet article de Futura Science qui permet un petit peu d'en savoir un peu plus. Cette maladie, c'est une maladie neurocognitive. Elle n'est généralement médiatisée que lorsqu'elle est responsable du décès d'une célébrité. Il y a eu Robin Williams qui en est décédé, Monica Vitti, Catherine Laborde également. Et quand il y a une célébrité qui décède de cette maladie, on en parle et puis après on n'en parle plus du tout. Et elle est pourtant fréquente, puisqu'en France, on estime qu'elle affecte environ 250 000 personnes. C'est quand même pas anodin. Ce qui fait en fait la deuxième maladie neurodégénérative la plus répandue derrière la maladie d'Alzheimer, mais au même rang que la maladie de Parkinson. Or, on parle beaucoup de la maladie de Parkinson et on ne parle pas du tout de cette maladie de corps de Lévy. Dans le monde, on estime que la maladie à corps de Lévy touche plus de 10 millions de patients. C'est une maladie qui est longtemps ignorée. Cette maladie à corps de Lévy, elle doit son nom à la présence dans les neurones des patients d'espèces d'inclusions qu'on a baptisées des corps de Lévy, du nom de Friedrich Heinrich Lévy, qui est un médecin d'origine allemande, qui a mentionné pour la première fois l'existence de ces inclusions, c'était en 1912. Mais ce n'est qu'en 1976 que le premier cas clinique sera formellement décrit, 1976, et les premières... Tandis que les premiers critères cliniques internationaux n'ont été définis que 20 ans plus tard, en 1996. Lors des stades les plus précoces de la maladie, eh bien cette maladie se caractérise par le dysfonctionnement de certaines parties du cerveau. Ces dysfonctionnements sont dus à l'accumulation dans les neurones d'une forme anormale d'une protéine qui s'appelle alpha-synucléine. En fait, dans son état habituel normal, cette protéine, elle a plutôt une espèce de forme d'hélice. Et quand elle est dans une forme plutôt toxique, eh bien, sa conformation, elle va changer et cette protéine va se replier en forme de millefeuille. Et l'accumulation de ces millefeuilles, ça aboutit à la création de ces inclusions, de ces corps de Lévy à l'intérieur des neurones tout au long de la maladie. Et cette protéine, elle est vraiment importante pour le fonctionnement des neurones. Donc, L'accumulation d'une forme toxique de cette protéine, ça va perturber le fonctionnement neuronal parce que les neurones parviennent moins bien à essayer de communiquer entre eux, et c'est à cause de ces morceaux de protéines en forme de millefeuille à l'intérieur des neurones. C'est ça qui bloque un petit peu tout. Cette phase, quand même, elle dure au moins 15 à 20 ans. Donc c'est quand même une maladie lancinante, longue. Par la suite, la maladie à corps de Lévy, elle entre dans un stade plus agressif. Non seulement les neurones des malades continuent à dysfonctionner, mais en plus, une partie d'entre eux commence aussi à être détruite. Et c'est donc dans cette deuxième phase. Alors, que sait-on des causes de la maladie à corps de Lévy et des facteurs de risque? Eh bien, il y a certains travaux qui suggèrent que la maladie à corps de Lévy pourrait avoir des origines environnementale. C'est-à-dire que le contact chronique avec certaines substances toxiques comme les phtalates ou la pollution atmosphérique, ainsi que certaines infections, eh bien, ça pourrait favoriser la modification de la forme de cette protéine. Et cela au cours du vieillissement, et donc déclencher par la suite cette maladie à corps de Lévy. Parmi les facteurs de risque connus de la maladie figurent aussi l'anxiété et la dépression. Souvent, on s'aperçoit que les patients qui ont souffert d'une dépression quelques années auparavant, eh bien, ont développé ensuite une maladie à corps de Lévy. Et pour cette raison, on pense que cette pathologie, la dépression, constitue un mode d'entrée dans la maladie à corps de Lévy. Les autres facteurs de risque identifiés sont l'hypertension artérielle, le diabète, le mauvais cholestérol, les accidents vasculaires cérébraux, et aussi des antécédents familiaux de la maladie à corps de Lévy, ou alors aussi parfois une maladie génétique, c'est-à-dire une mutation au niveau de certains gènes. Les symptômes, ils sont nombreux. Catherine Laborde, elle avait beaucoup témoigné de sa maladie. Elle était, par exemple, très gênée par ses difficultés de concentration. Et puis, elle était également sujette à des grandes peurs sans qu'elle puisse en expliquer la raison. Il s'agit en fait d'un tableau clinique très fréquent de la maladie à corps de Lévy. Le symptôme principal de cette affection, c'est l'existence de difficultés cognitives qui peuvent se traduire par une baisse de la concentration, une lenteur et une difficulté pour s'organiser. Ces symptômes, en fait, ça va résulter des dysfonctionnements des neurones et du manque de neurotransmetteurs qui en résultent, bien évidemment. Durant les stades les plus sévères de la maladie, les patients perdent les capacités à accomplir les activités de la vie quotidienne, s'habiller, manger, se laver, utiliser le téléphone, même utiliser la télécommande de la télévision. Les malades marchent moins bien, ils perdent du poids, car ils ont pour certains des difficultés pour avaler. Alors, où en sont les traitements? En fait, il n'existe pas encore de traitement qui permet de lutter contre ces masses de protéines en forme de millefeuille. En revanche, il existe des traitements symptomatiques qui vont améliorer la présence des neurotransmetteurs dans le cerveau. Alors, à l'heure actuelle, on pense que traiter les patients dès les stades les plus précoces a probablement un intérêt fort pour prévenir donc la destruction des neurones. À ce titre, il est probablement important de traiter au plus tôt la dépression et l'anxiété, qui sont à la fois des symptômes et des facteurs de risque de cette maladie à corps de Lévy. L'association précoce des deux approches, c'est-à-dire l'approche humaine et l'approche médicamenteuse, ça permettrait d'optimiser la qualité de vie des patients et puis bien sûr celle de leurs proches. En ce qui concerne les aspects curatifs, eh bien, il y a des essais thérapeutiques qui sont en cours en France et dans le monde pour tenter de mettre au point des traitements efficaces. Il y a un médicament qui est prometteur, il s'agit du néflamipimode. En fait, il va diminuer l'inflammation du cerveau, il va favoriser les connexions des neurones, et notamment la connexion des neurones avec cette protéine particulière. Bref, la recherche, elle vise à mieux comprendre et à mieux soigner la maladie à corps de Lévy. Cette recherche, elle existe, elle est dynamique. Ça veut dire qu'en fait, elle ne communique peut-être pas assez ou par rapport à d'autres équipes de recherche, mais elle est qualitativement excellente, bien évidemment, mais quantitativement, elle est insuffisante. C'est-à-dire que ces dernières années, on a dénombré 30 fois moins d'essais thérapeutiques portant sur cette maladie à corps de Lévy par rapport aux essais qui portent sur la maladie d'Alzheimer. Donc effectivement, s'il y a de la recherche, mais pas pas nécessairement une recherche poussée. C'est peut-être aussi pour ça que on est peut-être un peu en retard, en tout cas qu'il y a certains freins dans la compréhension et les thérapies qu'on pourrait mettre en place face à cette maladie. Voilà donc cet article de Futur et Science. Je trouvais que c'était intéressant de nous arrêter un petit peu sur cette maladie de Cordelévy, parce que si on estime qu'il y a 250 000 personnes en France qui sont concernées par cette maladie, c'est pas anodin. Et c'était à l'occasion du décès de la comédienne Nathalie Baye qu'on a pu en savoir un petit peu plus sur cette maladie. On essaiera au cours des prochaines émissions d'essayer de récupérer des articles sur cette maladie, voir un petit peu plus où on en est au niveau de la recherche actuelle. On commence à avoir des idées, des explications sur ce qui se passe, mais comment cela s'est mis en place. Apparemment, donc la dépression et l'anxiété qui seraient une cause, mais on voit qu'on est encore sur beaucoup d'interrogations et des investigations sont à mener, bien évidemment. Allez, on écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer à parler de l'actualité scientifique. On parlera d'Apple qui fête ses 50 ans pendant ce mois d'avril, là tout de suite.
Consciousness on the edge of the road. No need to sing anymore. So I start to wonder why and I closed my shop.
Pardon, Little Chic, c'était My Name is Nobody sur l'antenne de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Et nous sommes toujours en direct sur l'antenne de Graphite 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Et pendant qu'on écoutait ce titre, je découvre, alors j'avais vu ça sur les réseaux sociaux de Graphite, mais j'avais pas tilté que c'était aujourd'hui, 25 avril, ce sont les playoffs de la NBA. Donc aujourd'hui, c'est au Stadium, alors j'arrive pas à lire parce que l'affiche est trop loin, en tout cas c'est au Stadium de Compiègne, donc c'est cet après-midi, enfin non, c'est dès 18h, donc en fin d'après-midi. Je me ravance, c'est vraiment du direct. Non, c'est 19h, je crois. En tout cas, vous écoutez Graphite pour cette fin d'après-midi, parce qu'il y aura des diffusions de matchs en direct. Donc, les playoffs de la NBA avec partenariat Graphite. Donc, c'est aujourd'hui. Je pensais que c'était la semaine prochaine, mais non, c'est bien aujourd'hui. Donc, j'ai complètement oublié de vous informer de cela. Vous avez encore une belle journée qui vous attend, bien sûr, sur votre radio curieuse. Avant de nous quitter, quelques informations. Alors, ce n'est pas nécessairement de l'actualité scientifique en tant que telle. C'est plutôt un anniversaire, celui d'Apple, qui fête ses 50 ans. En fait, Apple a été créé le 1er avril 1976. Et donc, à l'occasion de cet anniversaire, il y a quelques petites anecdotes qui sont mentionnées par Futura Science. Par exemple, le premier, ça, vous avez peut-être vu ça récemment, le premier logo d'Apple, c'est pas une pomme, c'était Isaac Newton qui était assis sous un pommier. Le logo était un peu particulier parce qu'il était un peu compliqué. Il était beau, mais compliqué. C'était comme une gravure d'Isaac Newton qui était donc assis, il y avait un pommier au-dessus de lui, et ainsi de suite. Ce n'est que l'année suivante que Rob Janoff va créer la pomme croquée aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le nom Apple figurait alors dans le logo avec le A qui était inséré dans la partie manquante de la pomme. Et puis la pomme, elle est devenue seule à partir de 1984. Il y a deux fondateurs, deux cofondateurs qu'on connaît, hein, Steve Jobs bien sûr et Steve Wozniak, qui sont donc les deux cofondateurs chez Apple, qui sont des figures emblématiques de la marque. En fait, il y en avait aussi un troisième, et ça on l'oublie, il s'appelle Ronald Wayne, et en fait il a vendu ses 10% de parts chez Apple pour $800 à l'époque. C'était au bout de 12 jours seulement. Il a dû s'en mordre les doigts quand il a vu ce que ça a donné par la suite. Là, c'était quand même pas la bonne solution qu'il a prise, Ronald Wayne. L'iPod tire son nom d'une référence au film 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley Kubrick. En fait, ce serait plus spécifiquement la scène où Dave demande à plusieurs reprises à l'ordinateur HAL d'ouvrir la porte externe et l'ordinateur refuse. Et cette porte s'appelle Pod Bay Door en anglais, et donc du coup, on a retenu Pod pour l'iPod, pour le nom justement de cet iPod. Et il y a une autre anecdote sur iPod qui est assez intéressante. Selon un ancien employé d'Apple qui s'appelle Amit Chaudhary, Steve Jobs, en fait, il se serait plaint que le premier prototype de l'iPod était trop gros. Et les ingénieurs lui disaient que c'était pas possible de le rendre plus petit. Lui, ça l'a agacé. Et en fait, il a balancé l'iPod dans un aquarium. Et on s'est tous rendu compte, du coup, ils ont tous regardé, qu'il y avait des bulles qui apparaissaient. Donc l'appareil avait produit des bulles. Et ce qui veut dire, s'il y a des bulles, c'est qu'il y avait du vide. Il y avait de l'espace encore vide. Et donc, du coup, Steve Jobs a dit, regardez, il y a encore de la place dans l'appareil, vous pouvez encore le rendre plus petit. Et c'est comme ça, justement, qu'ils ont réussi à produire un iPod beaucoup plus petit. Si vous êtes comme moi, vous ne lisez absolument pas ce que vous signez, eh bien, il faut savoir qu'il y a une clause assez étrange dans les conditions générales d'iTunes. Vous ne pouvez pas utiliser iTunes pour construire des armes nucléaires. Plus spécifiquement, en fait, Apple prohibe, je cite, le développement, la conception, la fabrication ou la production d'armes nucléaires, de missiles ou d'armes chimiques ou biologiques. Ok, très bien. Je vois pas trop comment on peut réussir à construire une arme nucléaire avec iTunes, mais en tout cas, je promets de ne pas créer d'armes nucléaires parce que j'ai bien sûr signé les conditions générales d'iTunes. D'autres petites choses, il y a Apple qui avait tenté de vendre des vêtements, c'était en 1986. Il y a une ligne de vêtements qui s'appelait The Apple Collection. Alors ça n'a pas duré longtemps, il y avait des t-shirts, des casquettes, des stylos, mais bon, ça s'est arrêté assez rapidement. Et en 1983, Apple a lancé un nouvel ordinateur qui était baptisé Lisa. Il a posé en fait les bases pour le premier Macintosh qui était sorti un an plus tard. Lisa était proposé à environ $10,000, c'était un échec commercial et on nous explique qu'Apple aurait jeté 2700 unités dans une décharge de l'Utah à l'époque, tellement ça avait été un bide commercial. Voilà, les 50 ans donc d'Apple, si vous êtes fan d'Apple, vous célébrez donc cette marque. Si vous n'êtes pas du tout fan d'Apple, on peut quand même se dire que 50 ans, bravo, quand même une belle réussite technologique. Et ces derniers jours, et je crois que c'est même cette semaine, on a appris que le président d'Apple, Tim Cook, a annoncé qu'il souhaitait passer le flambeau à un inconnu du grand public. C'est maintenant John Ternus qui devenir PDG à partir du 1er septembre. En fait, John Ternus, il a 49 ans, il travaille chez Apple depuis plus de 20 ans. Il est titulaire d'une licence en génie mécanique de l'université de Pennsylvanie. Il est considéré comme discret et peu porté sur la communication. Ça promet. Il a gravi les échelons pour parvenir au poste de vice-président senior de l'ingénierie matérielle chez Apple. C'est lui, en fait, qui supervise le développement des produits phares comme l'iPhone, l'iPad, le Mac, les innovations technologiques structurantes. Il est réputé en interne pour son investissement dans la conception des produits et l'ingénierie. Ces dernières années, il a été un peu plus mis en lumière en présentant régulièrement les nouveautés lors des événements et des lancements de produits Apple. Et au-delà de sa carrière, eh bien, on sait peu de choses sur sa vie privée qu'il cherche à préserver. Il a bien raison, bien évidemment. Alors, à la suite de sa nomination, John Ternus a tenu à rendre un hommage appuyé aux employés d'Apple et s'est dit honoré d'assumer ce nouveau rôle. Il a également souligné sa volonté de poursuivre le développement de la marque en s'appuyant sur la vision et les valeurs qui définissent Apple depuis des décennies, depuis 5 décennies maintenant, comme on fête les 50 ans d'Apple. Mais voilà, donc John Ternus, nouveau PDG à partir du 1er septembre, suite à l'annonce du départ de Tim Cook. C'était un peu l'actualité des technologies modernes de communication cette semaine. Ça avait bien sûr pas mal fait parler. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Alors, on évoquera la semaine prochaine, on parlera de l'Ukraine, parce que pour la première fois dans l'histoire, il y a des drones qui prennent seuls des positions ennemies. Maintenant, on fait une guerre avec des drones, on n'a même plus besoin de soldats. Alors, on aura besoin des soldats pour ensuite conserver les territoires qui ont été récupérés. Mais alors, maintenant, ça a une prise de territoire, une prise de position ennemie uniquement avec des drones. C'est ce qui s'est passé il y a quelques jours et c'est le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a donc expliqué cela. Ça a beaucoup fait parler, bien évidemment, parce que c'est une nouvelle guerre, entre guillemets, qui se précise et c'est la technologie qui est derrière. On évoquera donc cela dans la prochaine émission de samedi prochain. Eh bien, écoutez, il est 12h55. Je vous quitte. Je vous laisse en compagnie, bien sûr, de Graphite avec la suite des émissions de votre Radio Curieux. Je rappelle que vous pouvez récupérer tous les podcasts de toutes les émissions sur l'antenne de Graphite, sur le site internet graphite.net. Et puis pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, le 94.9, eh bien vous êtes dans l'Aisne, dans l'Oise, dans la Somme, vous aurez la possibilité donc en fin d'après-midi de pouvoir écouter et participer au play-off de la NBA donc ce soir à partir de 19h avec donc, je lis bien, des diffusions de matchs en direct. Ça doit être assez intéressant. En tout cas, vous pouvez aller au Stadium de Compiègne si vous souhaitez participer, bien évidemment. On se retrouve samedi prochain, rediffusion mardi à 10h. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne semaine sur l'antenne de Graphite. À bientôt. Au revoir.